Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Continuons sur la Trinité. Nous avons parlé de la Trinité en elle-même, de ce concept de la Trinité. Nous avons parlé des trois personnes de la Trinité. Je note à l'article 253 sur le dogme de la Sainte Trinité, la Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle. Nous avons parlé de ce mot consubstantiel dans un précédent échange. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Je note cela parce que c'est souvent un malaise pour bien des chrétiens quand ils se retrouvent face à des croyants musulmans ou par ailleurs face à des croyants juifs. Et tu les connais, tu as une vraie amitié avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, les juifs.
Oui, tout à fait. Et cette anecdote me revient. Qu'une fois, j'étais à l'aéroport de Tel Aviv et j'étais entouré de quelques juifs à kippa, c'est-à-dire avec le petit chapeau qui les caractérise, et ils me disaient, dans le fond, on parle de monothéisme, mais est-ce que vous y avez droit, vraiment, au monothéisme? Puisque le monothéisme veut dire un seul Dieu, et vous vous dites qu'il y a trois dieux, puisque finalement, vous dites qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'aurais dit, mais chers amis, non, nous ne sommes pas trithéistes, nous avons toujours lutté contre le trithéisme qui s'était développé d'ailleurs dans des pays, dans des franges du christianisme assez éloignées des centres des grandes métropoles comme Alexandrie, comme Antioche, Rome ou plus tard Constantinople. Et nous avons toujours lutté contre l'idée qu'il y ait trois dieux, il n'y a qu'un dieu. Ils sont consubstantiels, ils ont le même être, à tel point que nous avons tellement donné à Dieu ce titre de Trinité que nous n'avons pas peur de l'appeler par familiarité, de lui donner ce nom, ô Trinité bienheureuse, dit la liturgie, ô Trinité lumière bienheureuse, ô primordiale unité. Et je pense à notre bienheureuse et maintenant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dans sa fameuse prière s'exprime, ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Et puis elle continue sur la pacification. Donc on n'a pas eu peur de dire Trinité.
Trinité comme un nom.
Finalement.
On a dit effectivement antérieurement que c'est d'abord un concept.
Et c'est évident.
Mais finalement, on pourrait dire que c'est devenu un petit nom.
Et ben
un
voilà,
surnom.
Un surnom. Mais exactement, comme quelqu'un, quand on le connaît mieux, on finit par l'appeler par quelque chose qui lui colle.
Et le frère orthodoxe, finalement, aime cette expression du Dieu Trinité.
Alors moi, je disais à ces juifs, mais attention, nous sommes vraiment monothéistes au sens commun du terme, mais au sens non pas d'un Dieu solitaire. Dieu n'est pas solitaire chez nous, comme chez les musulmans. Nous, c'est un Dieu, un amour, communion, qui se révèle, qui est unique, parce que le mot « monos » peut vouloir dire unique ou solitaire, mais pour nous, il veut dire d'abord unique, comme pour les juifs. Et je leur disais, regardez, votre connaissance de la Bible doit vous permettre de rencontrer que Dieu a voulu se manifester, a voulu rentrer en communion. Vous avez l'expérience du buisson ardent, où Moïse a rencontré le Seigneur. Vous avez l'expérience de la tente, du tabernacle dans le désert, et puis l'expérience du temple dans lequel la Shérina se manifeste et dans lequel il y a cette communion possible avec Dieu. Dieu n'est pas purement lointain, solitaire. Il est un être de communion. Et ça, je crois que c'est important. Et je leur disais, nous parlons de Trinité, mais nous ne manquons pas l'unité. Nous sommes persuadés que déjà, il y a des éléments dans votre tradition qui le dit. Au moment de la Genèse, on parle du Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui plane sur les eaux. et puis dans vos targoums, c'est-à-dire des sortes de commentaires insérés dans l'écriture en araméen, on parle de la Memra. La Memra, qu'est-ce que c'est ? C'est la parole de Dieu qui devient une véritable personne en vis-à-vis de Dieu. Dieu et sa parole, Dieu qui parle et qui a une telle toute-puissance que finalement sa parole devient une personne au sein même de Dieu. Donc il y avait déjà une sorte de binité, voire même d'une trinité dans les traditions juives les plus anciennes. Et le christianisme n'a fait que marcher sur ses pas en les précisant à travers ce que Jésus dit. Mais il ne faut pas séparer unité et trinité. Ça, je crois que c'est très important. Et nos frères orthodoxes font très attention de ne jamais professer la trinité sans rappeler immédiatement l'unité.
Tu évoquais cette phrase qu'on trouve à l'article 254, « Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. » Ce qui me rappelle, ce qui conduit à dire il faut qu'on se méfie les différentes formes d'hérésie qu'on peut dire sans le vouloir, oui, généralement, oui, les erreurs en tout cas théologiques. Certains pourraient penser que Dieu, il y a un moment où il est Père, puis après c'est l'expérience du Fils, puis oui, c'est la celle de l'Esprit dans laquelle nous serions peut-être aujourd'hui.
Et oui,
ce n'est pas comme ça que ça
fonctionne.
C'est pas
comme ça, non, ils sont de toute éternité, donc au-delà du temps, le temps est créé pour notre compréhension de la révélation. Le temps lui-même est créé et Dieu est au-delà du temps puisqu'il est à la source du temps. Donc le Père engendre le Fils éternellement et il donne tout ce qu'il est sauf l'engendrement au Fils, et donc il donne aussi l'aspiration du Saint-Esprit. Et l'on peut dire d'une manière très très belle du coup que le Saint-Esprit procède du Père en tant que source première, ainsi que le disait si bien saint Augustin, et par le don éternel de celui-ci au Fils, du Père et du Fils en communion. C'est-à-dire le Saint-Esprit procède du Père et du Fils en communion. C'est une vision donc très unifiée que nous pouvons donner, et je pense en particulier à saint Grégoire de Nazianze, pour donner aussi la parole à nos frères orientaux. Grégoire de Nazianze, avant toute chose, gardez-moi ce bon dépôt, dit Grégoire à ses paroissiens de Constantinople, pour lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs. Je veux dire la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd'hui. C'est par elle que je vais tout à l'heure vous plonger dans l'eau et vous en élever. Grégoire de Nazianze parle à propos d'un baptême. Je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. Je vous donne une seule divinité et puissance, existant une dans les trois et contenant les trois d'une manière distincte. Divinité sans disparité de substance ou de nature, sans degré supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. C'est de trois infinis l'infini connaturalité. Dieu tout entier, chacun considéré en soi-même. Dieu, les trois considérés ensemble. Je n'ai pas commencé de penser à l'unité que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. Qui a tant fait pour le mystère trinitaire, puisqu'il dit cette chose si belle à propos des trois infinis. C'est de trois infinis l'infini connaturalité. Dieu tout entier, chacun considéré en soi-même. Dieu les trois considérés ensemble. Et il achève son magnifique discours 40, comme on l'appelle. « Je n'ai pas commencé de penser à l'unité que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. » C'est, je crois, très important ce balancement. Et tout simplement, on est faible en intelligence, nous n'avons pas l'intelligence ni angélique ni divine, et donc on est obligé de passer de 3 à 1, de 1 à 3. Ça montre notre grande pauvreté. Et pourtant, dans ces vases d'argile, Dieu a voulu se manifester et nous le donner comme trésor. Et depuis 20 siècles, nous le conservons dans ces vases d'argile, mais à travers une structure, une hiérarchie, qui nous a préservé des faux pas, des hérésies, des erreurs. Et c'est vrai que plus le danger est haut, plus il risque d'y avoir des conséquences après dans les mystères, je dirais, subalternes par rapport au mystère central, qui est le mystère de la Trinité.
D'une certaine façon, la Trinité, d'un point de vue spirituel, j'ai envie de dire, c'est... ce n'est que relation, mais de relation sans opposition. C'est l'amour réussi, celui que nous désirons. La Trinité est pour nous Dieu et pour nous modèle de l'amour. Quand il dit Dieu est amour, c'est qu'en lui tout est relation parfaite.
Relation parfaite, et en même temps, nous y serons introduits. C'est-à-dire que avec les yeux de notre cœur, les yeux illuminés du cœur, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous verrons face à face. Nous verrons Dieu. Et nous verrons Dieu, nous verrons les processions trinitaires. Notre âme sera élevée par une lumière de gloire qui nous permettra de voir au-dedans de nous le Père qui engendre éternellement le Fils, et le Père et le Fils qui spire ensemble le Saint-Esprit, donc effectivement une spiration d'amour, puisque l'unité de la Trinité, comme disent parfois certains occidentaux, pères occidentaux comme Saint-Hilaire, relève de ce mystère du Saint-Esprit. L'Esprit est l'union intime de l'unité et de l'égalité, c'est-à-dire du Père et du Fils, disait Saint-Augustin.